de 3D qu'on pourrait entendre dans la A aussi. Mais je vous dis que dans cette version, il y a tout. Il y a les contrastes de nuances ainsi que les contrastes de caractères si propres à Dvorak et magnifiques. Chaque caractère est, comment dire, est identifié. Et ensuite, c'est très... Il a pensé à tout. Il y a des choses nouvelles que j'entends. C'est-à-dire la 3D, pour expliquer clairement, la 3D en musique, pour moi, c'est... On joue des couches, des voix ensemble et... Et en fait, il y a le basson qui vient, par exemple, pendant un thème linéaire, chanter, faire une petite intervention, un petit peu rythmique. Ça s'entend beaucoup dans cette version, quand il y a des interventions qui viennent donner du relief.
Ouais, comme les flûtes, et là on entend le tapis de corde qui précède,
là,
dont vous parliez.
La flûte est rentrée, chair de poule, direct aussi. Ouais. Oh, elle est venue, elle a émergé comme ça du tapis sonore. Il y a beaucoup de rubato au début, c'est vrai. On se dit, ah, mais c'est dur à faire avec des pises et tout ça, c'est des prises de risque. J'ai entendu, parce que c'est pour ça que j'aime écouter au casque, j'ai entendu aussi les petits bruits du chef qui est surinvesti et au tapis. Comme ça. Donc, après, j'adore. C'est génial, mais si je dois dire quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer dans la vie comme ça en disant c'est bien ou c'est mal. Il y a tout qui est bien et mal à l'intérieur de chaque version. C'est peut-être, si on peut reprocher quelque chose, un peu schizophrénique, parce que je trouve que. Bon, c'est un disque en même temps, allez.
Ouais. Je crois que c'est un concert.
Voilà, c'est ça. C'est encore mieux hein, si c'est un concert, c'est incroyable.
Et je crois, alors je ne sais pas si vous avez joué cette œuvre sous la direction de ce chef, mais vous avez joué avec ce chef.
Parce que je connais un chef qui adore Dvorak, avec qui j'ai fait une 7e que j'ai adoré faire.
Oui. C'est
Manfred Honeck.
D'accord.
Que j'ai viré au premier tour de la 9e de Beethoven.
Exactement.
Juste pour vous dire que, voilà. Il faut être ouvert.
Emmanuel Juliette Duny, vous avez joué avec...
alors moi j'ai joué...
Avec Manfred Honeck.
Absolument. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances et de quel instrument, mais c'est un très grand souvenir.
Cette version fait.
Oui, elle est très très belle. Je ne pensais pas que je pouvais aimer davantage que la version A.
Pareil.
Et peut-être que oui, parce qu'en effet, ce qu'ont tout à fait dit mes camarades, il y a cet art des transitions, les fins de phrases qui sont d'une beauté. C'est peut-être la version la plus poétique. Il y a vraiment une dimension poétique quasi religieuse au début, comme un peu un grand, pas un choral, mais il viendra plus tard, mais voilà, une impression comme ça d'extase, mais sans que ce soit excessif. Et puis, c'est très, très, très organique et très horizontal, et c'est sans doute pour ça que ce que vous soulignez, Sarah, c'est-à-dire ces petits éléments perturbateurs, mais pour le meilleur, rythmiques, on les entend d'autant plus qu'ils viennent sur un paysage qui avance et qui, c'est ça, il y a une très grande horizontalité et même les moments un peu plus martiaux, les timbales, parce qu'il y a beaucoup de rythmes et de pulsations, ne sont jamais brutaux comme ceux de la précédente, même si c'était formidablement bien fait et assez enthousiasmant. Ça vient dans un organisme, comme une respiration dans un grand organisme et les sonorités sont absolument splendides. Vous mettez la barre très très haut là aujourd'hui.
Oui, ça ne va pas être facile.
Ça va pas être facile.
On va encore faire des 33%.
3%. C'est ça, 33,1, 33,3. Peut-être que ça va descendre après, qui sait. Hein.
Maintenant elles sont toutes nulles. C'est ça. D'accord.
Alors, je rappelle, c'est le tirage au sort qui détermine également, non pas le choix des versions, mais l'ordre des versions.
Ça serait un peu dommage.
C'est pas une dramaturgie que vous avez conçue pour présenter les.
Non, c'est la dramaturgie du hasard. D'accord. Y a-t-il un hasard ? Bon, on continue. Version B.
Thank you.
Le premier mouvement de la 8e de Dvorak dans la version D. Sarah Nemtanou, est-ce qu'elle a autant de caractère que les précédentes de version D?
Écoutez,
Non.
Si. C'était quoi la question?
Est-ce qu'elle a autant de caractère que les précédentes, mais peut-être plus que la précédente?
La réponse est dans la question, enfin. Bien sûr. Bien sûr, Jérémy, bien sûr, que non.
Ah, bien sûr que non, je sais pas.
Bien sûr que non.
Pourquoi?
Non, mais c'est autre chose.
C'est quoi?
C'est plus simple, c'est plus carré, c'est plus lisse, mais c'est très classe. L'orchestre est super. Je trouve l'orchestre magnifique, tous les solistes jouent bien, il y a une cohésion d'orchestre, je trouve que les vents, les cordes dialoguent bien, il y a une unité dans cet orchestre, voilà, que je trouve très bien, mais je trouve ça un peu triste comme version, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espoir et la lumière, même dans les moments plus explosifs, il n'y a pas la célébration ou la joie, c'est... Ça me manque un tout petit peu de prise de risque, mais je dis pas que c'est chiant. Mmh. Oui. C'est un choix.
Vous ne le dites pas, mais on a
mais
compris.
Mais la réponse est
oui,
dans la question.
Et dans la, voilà.
Non, franchement, je trouve pas... Non, c'est un choix. Parce que je trouve qu'il y a quand même de grandes lignes, il y a des oppositions, c'est un choix. Je trouve que c'est vraiment un choix de...
Un choix de une forme de neutralité.
Non.
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 Bon.
Non, c'est... Non, pas non plus. C'est...
Emmanuel va compléter le panorama.
Allez-y.
Non, je sais pas.
Je m'embourbe.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais vous avez dit, hein, une forme de... C'est carré, c'est lisse.
Non, c'est plus lisse, un peu plus lisse. Là, on vient d'écouter des trucs qui vous arrachent les tripes. C'est
ça,
normal.
Ça vous a arraché les tripes, cette version D, Emmanuel
Julien? Pas trop, non, mais remarquez, je ne souhaite pas tellement ce traitement, ou figurer à la rigueur. Non, je me suis un petit peu enquiquinée, à vrai dire, parce que c'est très uniforme. Alors, au début, on pourrait croire que non, parce que c'est enregistré très fort, hein, ce début des violoncelles.
C'est peut-être moi qui ai mis le son du studio un peu plus
non,
fort.
Non, je crois, ce qui fait que tout le paysage incroyable de nuances qu'on avait eu dans la précédente, évidemment, là, on ne le retrouve pas, même si la sonorité des instrumentales est très belle. Et puis après, autant le chemin, la trajectoire, l'horizontalité de la précédente m'avait plu, autant là, ça me semble beaucoup plus découpé. Donc, une joie un peu lourde, un peu... Oui, c'est ça, c'est assez uniforme, et de l'uniformité, ça devient presque terne. Et j'avoue que je n'ai pas été... vraiment chagriné quand on a arrêté l'extrait, alors que souvent c'est une des croix de cette émission, c'est
de devoir renoncer,
devoir arrêter.
Oui.
Voilà,
oui.
On a beau s'y préparer, là ça m'a fait ni chaud ni froid que ça s'arrête.
Quelle vision a le chef de cette symphonie, Philippe Venturini, pour vous? Vous avez une heure.
Oui, c'est ça.
C'est dans la question.
Je rends la copie dans une heure. Écoutez, j'avoue que moi j'ai trouvé ça aussi assez terne, linéaire. Enfin, évidemment, c'est bien joué. Peut-être que si on entendait ça au concert, on trouverait ça très bien, on serait très content. Mais là, c'est vrai qu'on est dans le cadre d'un comparatif avec les injustices, évidemment, qu'engendre ce genre d'exercice. Je trouve le début, ça commence pas piano, ça commence trop fort, là, les violoncelles. Et là, je trouve qu'on est tout de suite précipité dedans, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui doit vous prendre et vous entraîner au fur et à mesure.
Ouais. Sans plus, quoi.
Ouais, bon, on va dire ça.
Ouais. Bon, on va passer à la suivante.
Voilà. Très bonne idée.
Attention, eux. Thank you. la version E de la 8e de Dvorak. Vous aviez envie de continuer avec cette version, Emmanuel Giuliani?
Non.
Ah,
non.
Pourquoi?
Ben, je ne sais pas, je trouve que ça sautille beaucoup trop. Dès l'entrée, après le solo de flûte, voilà, dès cette première entrée de tutti et cet aspect festif qui doit nous prendre, moi j'ai vu arriver une image idiote, mais un peu comme dans un cartoon, des petits personnages qui sautillaient. Et je n'ai pas pu m'en défaire jusqu'à la fin. Je trouve qu'elle...
Même pas
qu'elle...
des lutins d'une forêt, non?
Non, mais si, peut-être, si, parce que c'est très bien fait. Mais oui, je la trouve, alors... Faut pas dire parodique, moi c'est moi qui me suis créé ce film stupide et qui n'ai pas réussi à m'en défaire, mais ce qui fait que je suis pas du tout entrée dans la profondeur de la musique, dans tous les plans sonores, j'ai vu voilà cette image sautillante et qui me fait qu'il y a pas du tout assez de climat différent, de poésie, de phrasé, après un début fort neutre me semble-t-il de ces violoncelles. Donc vraiment,
non.
Mais je suis impatiente d'entendre ce que...
Ah ben moi je veux savoir ce que Philippe Venturini a vu.
Deux autres personnes.
Je serais moins sévère qu'Emmanuel, mais je suis un peu partagé. Mais dans l'ensemble, c'est une version qui m'a plutôt parlé. J'ai trouvé que après l'intervention de la flûte, les choses commençaient à se mettre en route de façon assez progressive et j'ai vraiment vu tout l'orchestre se mettre en marche. J'ai trouvé que c'était bien tenu. Il y a du rubato, il y a clairement un chef qui prend soit des libertés, soit des risques selon sa sensibilité. Il y a une grande clarté des lignes, beaucoup d'énergie.
Un bel
orchestre, oui. Et un côté, un caractère assez flamboyant dans l'ensemble et lumineux. J'ai pas vu les petits lutins ou...
Les petits lutins ou les petits...
Ouais. Sarah Nendo, il y a un passage en particulier qui vous a beaucoup plu. Je vous ai regardé à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quel passage? Donc vous avez été saisi par quoi? Une phrase des cordes?
Pas du tout, non.
Non. Vous n'avez pas aimé cette version?
Il va falloir vraiment que je sois...
Chair de poule ou pas chair de poule?
Mais zéro!
Ah, zéro?
Ah, ouais. Moi, j'étais mal à l'aise en écoutant cette version. Pourquoi? C'est ce que je dirais de plus négatif. Il faut vraiment que je réussisse à me contrôler et que je ne m'enflamme pas. Mais pour moi, cette version est un peu statique.
Statique?
Ah ouais, ça retient tout le temps, ça ne s'envole jamais. Et c'est pas très ensemble.
Ah bon?
Il y a des problèmes d'ensemble. C'est pas très...
J'ai mal interprété votre expression, alors je pensais que vous étiez très enthousiaste.
Ah, mais c'est pour ça, ça me pose des problèmes dans la vie, ce que vous me dites. Parce que
mais
des
ça
fois,
peut être
je suis
pratique
pas très claire.
Dans certaines situations.
Rien ne vous a plu?
Rien.
Ah oui?
Rien, et le côté sautillant dont parle Emmanuel, c'est qu'on entend chaque temps. 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de grande ligne.
Ah ouais.
C'est ça qui le manque de lignes pour moi. Mais je dis pas que je détiens la vérité. Hein.
Non,
attention, Philippe. Vraiment.
Philippe détient la vérité.
Oui, voilà. Merci de le rappeler, Jérémy.
C'était vrai jusqu'ici, là, peut-être.
Oui, la version E remet un petit peu les choses en perspective.
Voilà, moi, c'est la moins bonne de ce qu'on a écouté.
D'accord.
Ouais. Je préfère celle d'avant.
Qui
a plus de classe, Rolls Royce, allez, c'est bon, on monte dans un truc, à l'aise, bien, intérieur cuir, machin.
Mais là, c'est un taco alors?
C'est non, un peu, moi je me suis pas fait plaisir, bon. Voilà, c'est mon point de vue, voilà, du tout.
La dernière de la sélection, préparez-vous, version F.
Thank you.
La version F, la dernière de la sélection de cette tribune consacrée à la 8e de Dvorak. Philippe Venturini, de quelle version voudrez-vous rapprocher cette version F parmi celles qu'on a entendues ?
Oula, je dirais d'aucune.
Ah oui ?
Oui, je l'ai trouvée vraiment très, très singulière.
C'est-à-dire, en quoi ?
J'ai l'impression que le chef s'est trompé de symphonie et qu'il croit diriger la 7e et pas la 8e. Il y a un côté... Alors, je trouve que tout le début, ça manque terriblement de nuances. Il commence trop fort. Enfin, tout, enfin sur la partie anglaise, on doit être sans arrêt entre piano et pianissimo. Et c'est trop fort. Ça, c'est, on n'a pas cette espèce de d'arche tellement délicate qui est tellement lyrique. Ça manque de, oui, ça manque de nuances et de tendresse aussi dans l'exposition du thème. Et puis après, je trouve que toute la façon de conduire le discours, il y a un côté sans arrêt menaçant derrière. On n'a pas ce lyrisme épanoui auquel on faisait allusion au début de cet entretien. Et je trouve ça, tout est, je sais pas, poussé, tout est souligné et toujours dans une espèce de recherche d'intensité sonore maximale. Je trouve ouais. ça très... j'ai rien contre les orchestres
tragique,
qui jouent fort. C'est, oui, voilà, une espèce de menace permanente.
Ça n'est pas la pastorale de Dvorak qu'on entend ici.
Ah non, pas du tout. Non. C'est plus, est-ce que c'est l'héroïque, je ne sais pas. Oui. Ou, en tout cas, c'est pas la pastorale.
Ou la tragique. Oui, voilà. Vous vouliez la... Je faisais la question à Philippe, la rapprocher d'une version. Vous la rapprochez...
La B.
D'accord.
Ah oui.
Ouais, c'est assez sec, comme la B. Il y a ces... je me disais, tiens, le chef de la F... Je dis, il me fait un peu penser à l'abbé. Soit il est fan, soit c'est le même 40 ans après. Je sais pas, parce que des fois, vous faites des petits pièges comme ça.
Non.
Si.
C'est pas le genre.
Ah,
mais
si,
il y a un lien avec l'abbé pour vous.
Oui, il y a un lien avec l'abbé.
Et c'est pas le même chef.
Si, d'accord.
Ah, donc il reste plus beaucoup de possibilités. Si
c'est son
même...
fils. est-ce que Philippe, la nuance dont vous parlez au début, ré, sol, regardez bien la partition.
Oui.
Ce ne sont que les violoncelles qui ont le mezzo forte expressif. Oui. Le reste sont piano, pianissimo. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on entend rarement, dans l'équilibre ou en concert, la clarinette et les cordes doublées. Oui. Doubler exactement. Ce terme, on n'entend que les violoncelles, c'est normal de les entendre. Et en fait, Dvorak, là, comme ça, c'est vrai qu'il vient avec son génie de compositeur teinté, coloré, ce thème qui est dédié au violoncelle. Et on sait, comme Dvorak aime le violoncelle, et là je me la pète, et puis je fais « oui, il a composé un magnifique concerto, n'oubliez pas ». Eh bien, il y a quand même, comme l'abbé, un tout petit manque de liant pour moi dans l'expression, dans le chant, dans le vibrato, dans le... Il manque un peu l'élément de l'eau, comme l'abbé, mais c'est pas grave parce que ça me promène. Moi, je me suis laissée promener. Et il prend des risques avec un tempo au milieu du là, un petit
mais
thème
oui.
qui prend plus lentement et c'est intéressant et c'est vivant. Voilà, c'était intéressant, vivant, un peu sec, mais tout de suite, voilà.
Moins
y a
sec
chose,
que l'abbé, parce que
c'est
ce que.
Beaucoup moins, mais c'est parce que c'est un tout petit peu plus récent quand même.
Ouais.
Donc la prise de son, elle aide, mais c'est pas moins sec, je pense. Ouais.
Vous avez été baladé aussi par cette version d'Emmanuel
Gilabert. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai, je vois très bien ce que veut dire Philippe, mais ce que vous
disiez
de tragique,
et pas de cœur sur la main,
etc. Voilà. Voilà, c'est ça. moi, j'y ai plutôt entendu du mordant, une espèce de côté, c'est ça, de mettre un peu ses griffes et ses crocs dans la musique. Et je trouve qu'elle le supporte bien, tellement c'est riche. J'ai aimé les tempi tout le temps, dans leurs fluctuations. Comme dans les moments de constance, et j'ai trouvé qu'il y avait une gestion des crescendi, je ne sais pas comment il faut dire, extraordinaire. Beaucoup de différenciation de climat, je l'ai trouvé vraiment très très narrative. Et autant je m'ennuyais par exemple avec la D, là, dès qu'arrivait une nouvelle mesure, une nouvelle cellule, tout de suite l'intérêt renaissait. Et malgré cette succession de tableaux très différents, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'unités. Non, elle m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la note tenue par la flûte, peu à peu, on croit qu'elle s'éteint, mais non, elle est là. Elle est toujours là. Elle vous... Ça, c'est un petit
c'était
effet
un moment
magnifique.
Particulier, c'est vrai.
Comme une espèce... dans un paysage, un rayon de soleil arrive à un endroit et tout à coup, un petit flocon de neige brille plus que les autres. Enfin, pour moi, elle est très, très, très évocatrice.
Bien. Eh bien, voilà, les 6 versions. On en supprime 2. Pour la suite. Philippe, vous avez fait votre choix ?
Oui, je dirais D et F. Mais bon, je sais qu'elle sera maintenue au deuxième tour. Mais
attendez, voilà. Vous ne savez rien.
Ouais, si. Après ce qu'on dit. Sarah et Emmanuel, oui.
Sarah.
Vous enlevez D et F, eh bien moi, c'est vrai. J'enlève B parce que je retrouve B dans
sec.
F.
Oui. Mais vous préférez F.
Je préfère F. Oui. Et E, désolé.
B et E.
Ah ouais.
C'est pas Emmanuel possible. Giuliani.
Alors ça va pas marcher parce que moi, ça serait D et E.
D et E, il y a deux voix contre la D et deux voix contre la E.
Ah oui. Mais alors Philippe, vous êtes embêté parce que vous aimiez bien la...
La E.
Bah, écoutez, embêter hein. Philippe fait partie aussi des options de.
Mais c'est
de
vrai,
cette émission.
Mais c'est vrai. Et c'est on n'en a pas si souvent l'occasion, donc profitons-en. Voilà.
C'est même là. C'est même recommandé.
C'est recommandé. Voilà, pour bien réussir une tribune quand Philippe est là.
Alors attendez. Préparez-nous.
Préparez-vous.
Oui.
La version D. Enregistrée en 2020.
Attendez.
Oh là.
La D. Oui. Que c'était le qui était un petit peu...
Classe, lisse, un peu uniforme. Oui. Tout ça.
Version D. Donc 2020, Deutsche Grammophon, Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic.
Ah bah oui. Sans surprise.
Ça va bien.
Voilà. Ça va bien, ça vous conforte.
Mais oui. Mais j'aimerais bien ne pas être confortée.
Et la version E, qui fut un diapason d'or à sa sortie, en 1992, c'est l'orchestre, c'est la Philharmonie tchèque. Et Jiří Bělohlávek.
Ah, d'accord.
Sa première version.
D'accord.
Parue chez Chandos. Voilà.
Quelle année ?
1992. On se retrouve tout de suite pour le deuxième extrait, le mouvement lent.
France Musique, la tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Dans la tribune des critiques de disques aujourd'hui sur France Musique, en compagnie de Sarah Nemtanou, Emmanuel Giuliani, Philippe Venturini, nous écoutons la 8e symphonie en sol majeur de Dvorak. Vous pouvez nous écrire et tenter de gagner le disque France Musique de la semaine. C'est la 9e de Dvorak, dirigée par Nathalie Stutzmann à la tête de l'Orchestre symphonique d'Atlanta, paru chez Erato, un disque qui vient de paraître. Voilà, vous avez jusqu'à mercredi soir minuit pour tenter de gagner ce disque. Je rappelle que cette symphonie a été créée sous la direction de Dvorak en 1890. Dvorak qui était plutôt satisfait de cette symphonie, qui écrit cette dédicace sur la partition « Pour ma nomination de membre de l'Académie François-Joseph pour les sciences, la littérature et l'art ». Voilà. Et on a un témoignage d'un musicologue qui s'appelle Otakar Sourek, qui a écrit plusieurs volumes, un des premiers grands spécialistes de Dvorak, qui écrit la chose suivante, à propos de la composition de cette symphonie. « Dans sa propriété de Vysoka, Dvorak ne passe pas seulement ses journées à travailler, mais aussi pour être en contact étroit avec la nature qu'il aime, d'un cœur pur de simple paysan. Dès l'aube, il parcourt les champs, les landes et les forêts environnant le hameau. C'est dans leur intimité que naissent ses idées musicales. Dans le jardin qui entoure la demeure, il s'occupe avec passion d'une quantité de pigeons blancs. Le soir, il se rend à l'auberge où il prend plaisir à bavarder avec les villageois. Il s'intéresse à leur dur labeur et se fait expliquer les détails de leurs travaux difficiles et leur existence. » Voilà le cadre de cette 8e symphonie. On a supprimé deux versions. Il en reste quatre. Nous allons entendre. Alors, je ne sais pas si dans l'extrait qu'on va entendre, il y a ce fameux solo. Les huit mesures de ce solo de violon, c'est plus tard. Hein,
oui, c'est Sarah. Un peu plus tard, ouais.
Là, on écoute les mesures 1 à 56 de cet adagio, en revenant à la version qui vous avait beaucoup enthousiasmé au début, la version A. Thank you. Retour à la version A. Est-ce qu'elle vous emporte toujours, Emmanuel Giuliani, cette version A?
Ah oui, et puis alors là, ce que je trouve...
On a eu le solo de violon, hein.
On a eu le solo de violon. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est le naturel et la spontanéité des dialogues, des prises de parole, des interruptions. Il y a à la fois beaucoup, beaucoup cet aspect rêveur, très, très caressant, très doux. Puis tout à coup, des prises de parole un peu plus rhétoriques. Il y a de l'humour aussi quand arrive, c'est ta-ta-ta-ta. On passe par une infinité de paysages sonores et psychologiques sans que ça fasse du tout. Évidemment, ça l'est, c'est un artefact. On interprète des années après quelque chose qui est écrit sur du papier. Bon. Mais ça coule de source. Et la variété ne fait jamais maintenant il faut que je fasse autre chose, maintenant il faut que je fasse la nuance, maintenant. Là, comme s'ils improvisaient.
Ouais.
C'est vraiment magique.
Philippe.
Oui, je continue à beaucoup aimer cette version. Et comme Emmanuel, je trouve ce côté spontané, cette fluidité dans le déroulement de la ligne, de la musique. Je trouve que tout le début est vraiment très très beau, avec une espèce de mélancolie un peu à la Tchaïkovski, que j'ai trouvé vraiment très réussi.
Sans il y a des jamais... couleurs à la Tchaïkovski.
Ah oui,
cette
exactement.
Ouais.
Sans jamais rien appuyer, sans insister sur aucun détail. Il y a tellement de délicatesse et de dans cette façon de faire la musique, je trouve ça vraiment, vraiment admirable.
Oui. La tendance se confirme, Sarah Nemtanou, par rapport au premier mouvement.
C'est-à-dire que dans ce genre de version, les priorités sont aux bons endroits. C'est-à-dire le caractère, le timing, l'humanité, la recherche de la profondeur, de qu'est-ce que Dvorak, qu'est-ce que son écriture, qu'est-ce qu'on doit faire ressortir dans cette musique. Et vous l'avez très bien dit, et ce n'est pas un hasard. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être un hasard, des hasards ou pas de hasard. Ce n'est pas un hasard si vous avez lu ce texte qui dit bien que là, ça décrit totalement cette interprétation, l'humanité de Dvorak, sa simplicité, sa modestie et son respect, en fait, par rapport aux gens qui l'entourent et à la nature qui l'entoure. Ouais. Il serait très à la mode aujourd'hui. Il serait green composer. Et... je trouve que, mais justement que la priorité dans cette version-là, je le répète parce que c'est très important aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi c'est très important, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment ensemble. Les attaques des bois, des vents, ils sont souvent, ils sont décalés, on s'en fiche.
Ça a tellement le charme.
C'est pas grave. Donc, il faut revenir à des choses d'importance comme ça. Mais il faut continuer de pouvoir les apprendre avec les bonnes personnes. Il faut continuer qu'on ait des bons professeurs dans nos conservatoires, voilà, des bons pédagogues, et qu'on continue dans cette voie-là. Et arrêtons de vouloir être parfait, de ressembler à ci, à ça. Il faut que ce soit parfaitement vertical, aligné, nord-sud. C'est est-ouest, là, on a tout, là. Donc,
En quoi il est difficile, le solo de violon dont vous parliez?
Oui, c'est déjà un solo de violon de 8 mesures qui arrive après un premier mouvement, qui est assez houleux, qui est... où il faut déjà jouer. Déjà, rien qu'un solo de violon en soi, dans un mouvement lent, où il faut être dans les aigus, où il faut avoir un son pur, être un petit oiseau alors qu'on est là et qu'on transpire déjà depuis 20 minutes, c'est pas facile. Jouer un concerto, quand on peut se concentrer dans sa loge avant et que, oui, on se met en condition, on arrive telle une diva ou un divo sur scène, eh bien, oui, là, on a une préparation mentale. Mais ce qui est dur dans le solo, en général, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le temps de concentration avant, les doigts frais. Il faut tout de suite être nickel.
Et l'oiseau, c'est vrai que c'est un oiseau qui s'envole dans ce solo.
Les doubles cordes, la justesse, ça, c'est dur dans ce morceau-là, Ouais.
Et le climat, parce qu'il
absolument.
Faut ce climat
ouais.
à la fois tendre, mais un peu populaire, au merveilleux sens du terme.
Exactement.
On passe à la suivante, celle qui est alors pour le coup plus
fabriquée,
oui, une version d'horlogerie, hein, c'est le terme qu'on avait utilisé tout à l'heure, un peu sèche, cette version B qu'on a conservée, hein, la voici dans cet adagio. La version B, c'était la version tout à l'heure, grand spectacle aussi, Philippe Venturini, est-ce qu'elle se fait plus, je vais dire discrète, mais
entre... discrète un peu par la force des choses.
Par le caractère du mouvement,
mais comme on pouvait s'y attendre, ou je sais pas, ou le craindre, ou je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire, bah, ça fonctionne quand même moins bien, je trouve, que dans la version A, parce qu'à force de tout vouloir... maîtriser, la musique est un peu bridée quand même, l'expression n'a pas cette éloquence évidente qu'on avait pu constater dans la version A, et là je trouve que quand même
Ça oui, respire
c'est,
pas.
C'est un, oui, c'est un peu cadenassé. Et du coup, des choses, des figures aussi simples que ces descentes de gamme aux cordes, ça paraît vraiment totalement banal. Alors que dans la version précédente, ça nous racontait quelque chose. Là, c'est oui, des notes qui s'enchaînent. Enfin, moi, je suis resté assez extérieur à ce que fait le chef dans cette version, parce que on sent que tout est vraiment millimétré, programmé, tenu, quoi. On a envie de lui dire, mais lâche un peu, laisse un peu respirer, quoi.
Ouais. Même constat, Sarah.
Oui, oui. Mais c'est le contrôle, beaucoup de contrôle, c'est-à-dire que il laisse rien passer, ce chef. C'est hors de question qu'il entende quelque chose qui ne lui convienne pas. Mais bon, après, voilà.
Mais c'est plutôt bien pour un chef. Non
mais
ça.
C'est tellement précis. Oui, 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 ça, oui, bien sûr. C'est magnifique, bon, fait dans ce genre-là.
Oui.
C'est hyper bien fait, attention, là. On est dans des hautes sphères. Hein. Il y a quand même, je dirais, pour être un peu positive, il y a un côté très... très délicat, c'est très... Il y a une délicatesse quand même dans le son. Il y a tellement de soins apportés à l'articulation. Mais pour moi, du coup, ça en devient trop une obsession. Ouais. Et il manque une notion très importante dont vous avez parlé, Philippe. C'est le plaisir.
Ouais. Le plaisir.
On ne devait pas trop... Ouais. Ah non, c'est peut-être le genre de choses que je ne dois pas...
Non, si. Le plaisir...
On
ne
devait pas trop rigoler.
Ça ne rigole pas.
Ça ne rigole pas, ouais.
L'émotion c'est peut-être aussi.
Oui, voilà, pour rigoler en même temps. La musique, c'est sérieux, attention.
Ouais.
Hein, mais bon.
Alors que le plaisir, je trouvais dans son côté assez démonstratif, on le sentait dans le premier extrait. Là, en effet... alors, pour dire une chose positive, moi, j'adore le son des clarinettes. Je les trouve absolument merveilleuses. Voilà, pour ne pas être que négative. Maintenant, une chose qui me gêne énormément, c'est que les silences sont du genre interrupteur, on ferme la lumière, on rallume après. Ça, je déteste quand c'est comme ça. Et puis, c'est quand même très très lent, donc ça dilue un peu la musique. Alors peut-être dans une précision absolue, mais c'est vrai ce que vous avez dit, la précision est une chose, le flux, l'émotion, la vie en est une autre. Et puis autant on assistait à des personnages qui se parlaient les uns aux autres, quitte à s'interrompre, quitte à s'imiter, avec ou tendresse ou un peu de malice et d'ironie. Ici, chacun parle dans son coin, suit sa ligne. En effet, vraisemblablement, les yeux rivés vers un chef qui n'entend pas que le dessin déborde des traits, hein, comme quand on est petit, il ne faut pas que la couleur s'en aille du tour du dessin. Mais il n'y a pas d'esprit là-dedans. Enfin, peu.
Ouais, peu.
Je voulais juste dire que le violon solo, magnifique.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Incroyable, d'une facilité, d'une fluidité. C'était comme jouer ça coule tout seul.
Ça coule tout seul.
Bravo.
Ouais. Ouais. Version C. La version C, ce violon solo, Sarah Namtanou.
Très bien.
Très bien.
Ah oui, super.
Ouais.
Ouais. Que... Mais non, mais c'est qui ce chef qui fait des inflexions de voix là où il fait...
Oui, on l'entend grogner sans arrêt. Oui,
mais
oui.
C'est la version en concert, donc.
Ah oui, c'est la version en concert.
C'est normal. Ouais. Ça m'intrigue. J'adore toujours autant. Ouais. Je pense la même chose que. Il y a un petit côté, c'est vrai, peut-être. Surinterprété parfois, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, mais je trouve que c'est un virtuose du phrasé. Quand il veut mener, quand il veut que ça dure et que ça fasse 6 mesures, la carrure, ça tient. Et quand là, ça doit s'arrêter, ça s'arrête, enfin, il gère. Il sait exactement ce qu'il veut. Hein.
Parce que le tempo est assez lent.
Oui, mais j'ai même pas fait gaffe.
D'accord.
Ouais, c'est tellement imaginatif et riche, sans chantilly, encore une fois, avec une certaine noblesse. C'est équilibriste. C'est un bel exercice d'équilibriste de réussir à jouer lent, avec plein de tempi différents, plein de propositions, et rester noble et classe.
Ouais.
Voilà.
Vous partagez cet avis, Manuel Giuliani?
Ah oui, c'est très très beau. Puis alors, ces 8 notes aux cordes qui descendent là, les ta-ta-ta-ta. Mm. Mais que c'est beau! Mm.
Je peux vous dire pourquoi?
Oui.
Parce qu'elles ne sont pas détachées.
Oui.
Et Courtemazeau nous demandait la même chose. Tout dans le même archet, on commence à la pointe en poussant, dans le même archet, ta-ta-ta-ta.
Donc on
en
sent
staccato.
Ouais.
C'est pas séparé, ta-ta-ta-ta. Ouais, pas... ouais. Voilà, c'est.
Donc,
voilà.
Ouais. Si on revient, comme on l'a fait tout à l'heure, au texte que vous Dvorak, avez lu,
oui,
sur
Dvorak,
voilà, ça c'est la forêt qui s'éveille à l'aube. Hein. Oui. Au début, il y a encore...
Sans les lutins.
Il y a encore, sans les lutins. Ou alors, ils sont restés tranquillement cachés, parce que ce n'est pas encore leur moment, avec ces longues phrases, comme vous disiez, Sarah, mais qui ne dégoulinent pas, qui ne pleurnichent pas. Elles s'épanouissent. Et je pense que, c'est vrai, on entend la respiration du chef, mais parce qu'il respire pour sa longue, comme un acteur, pour sa longue tirade, et il pense déjà au dernier mot, au point final, qui ne sera pas un point pic, mais un point voilà, qui ouvrira. Ça rebondit tout le temps, et peu à peu, ça s'éveille, la brume s'effiloche, on commence à voir les formes, ça s'humanise, ça respire, c'est... Bien sûr, c'est très lent, mais c'est jamais creux, c'est toujours plein de choses, et puis c'est 8 notes de cordes, rien que ça, mais on a envie de les entendre jusqu'au bout du monde.
Et puis les nuances, enfin, il y a des pianos qui sont incroyables. On tend presque l'oreille, mais c'est toujours timbré en même temps.
Oui, justement, très ça fait pas, tiens, je vais vous faire un piano, c'est là parce que ça doit être là.
Ouais.
Ah non, quelle conception.
Oui,
vos lutins, non
c'est des madeleines. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. penser. C'est vrai que ça fait partie de ces versions. C'est toujours difficile, du coup, de trouver les mots, mais ça fait partie de ces versions qu'on, dès les premières notes, on est saisi, on écoute, mais alors qu'il n'y a aucun effet, il n'y a aucune pause, aucun effet de manche, et on est absolument absorbé par la musique, par ce qui se passe, par les phrases qui s'enchaînent, qui se suivent, les transitions, les nuances, enfin, ce que tout le monde a repéré. C'est vraiment magique. Il y a une poésie dans cette version absolument incroyable.
Mais alors, qu'est-ce qui la différencierait de la A, par exemple, pour laquelle vous aviez aussi des mots comme ça, magiques, naturels?
Là, effectivement, donc, c'est une
question piège.
C'est une version de concert. Est-ce que le...
Oui. Pas la A, mais la...
Non, pas
oui.
La A, mais là, la B, la C, pardon, ouais. On l'entend clairement. C'est difficile à exprimer, mais...
Un avis?
Plus une ligne très continue qui ne lâche pas, peut-être.
La fantaisie aussi, le passage de clarinette, oui. Ce motif un peu rhapsodique qu'on entend, qui revient plusieurs fois. Ça arrive comme ça, puis je sais pas, on est complètement émerveillé.
Je dirais que la A, elle n'a pas besoin de tous ces artifices. Enfin, c'est dans le bon sens du terme. Elle n'a pas besoin de tous ces effets et tous ces contrastes pour vivre d'elle-même.
Ouais.
Elle vit naturellement, la A. Il y a quelque chose de, d'inné. Et la C, c'est plus construit, plus pensé, plus réfléchi pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire, hein, une sorte de...
Ouais.
Il faut qu'il se passe des choses. Il y a une petite, peut-être, angoisse.
Elle s'y passe bien.
Elle s'y passe
merveilleusement.
Très, très bien.
Ouais, mais c'est plus construit, peut-être.
Oui.
Ouais. Mm-hmm. Intéressant. Ouais. La dernière, la F.